Bonjour et bienvenue, je suis Romain Mudrac et vous écoutez un podcast proposé par l'Institut Balanites, organe de médiation entièrement tourné vers la promotion des recherches scientifiques liées à la Grande Muraille Verte. Ce podcast s'intitule « Coopération scientifique décentralisée et accompagnement du développement, quelle nouvelle donne pour les projets dans les pays sahéliens ?» Pour en parler, nous accueillons au micro Michel Brunet, paléontologue poitevin et professeur au Collège de France qui a voyagé dans de nombreux pays d'Afrique pour ses recherches, et notamment au Tchad, où il a découvert Toumaï avec son équipe. Pascal Duforestel, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, président de la coopération internationale. Paul Minot, entrepreneur, fondateur de Filtralife, qui commercialise une solution de filtration de l'eau, nous fera bénéficier de sa longue expérience entrepreneuriale en Afrique notamment. Gora Diop, directeur technique de l'agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte. Et pour animer cette table ronde, nous serons deux avec Didier Moreau, délégué général de l'Institut Balanites. Didier, je vous laisse la parole pour poser le débat et lancer la discussion.
Alors merci d'avoir fait cette mise en perspective. Tout, ou en tout cas beaucoup, est dans le titre. Effectivement, moi, je me suis attaché depuis 5 ou 6 ans à créer les conditions autour de la Grande Muraille Verte et des travaux qui sont menés depuis 20 ans d'une meilleure promotion de ce qui a été fait et surtout des perspectives, parce qu'il faut vivre en pensant à l'avenir. Cet avenir, il est à l'évidence en pleine mutation. D'abord pour des raisons géopolitiques que nous connaissons tous. Les 11 pays qui sont concernés par ce projet fabuleux qui est la Grande Muraille Verte ont tous, à leur niveau et chacun de leur côté, des problématiques politiques, sociales, culturelles à régler qui sont loin d'être aisées. Il y a une histoire relationnelle entre l'Europe et plus particulièrement la France et l'ensemble de ces pays. Quand je dis plus particulièrement, je repense à une discussion récente qu'on a eue avec des Britanniques autour du projet de la Grande Muraille Verte en Éthiopie, parce que ce sont eux qui mènent les choses. Donc on voit bien que c'est une problématique internationale. Et cette histoire, la Grande Muraille Verte devrait pouvoir permettre par à la fois ses travaux, mais surtout l'animation d'une communauté de destin. Ces 7200 kilomètres de long créent les conditions d'un véritable destin commun pour toutes ces populations dans ces pays. Et là, je pense qu'il faut, à un moment ou à un autre, se poser la question de la manière dont on renouvelle notre façon de penser les relations, les coopérations et les déclinaisons de tout ça. C'est comment repense-t-on les outils, comment repense-t-on la manière dont on finance les projets. C'est pour ça que ce matin, pour cette table ronde, on a des profils extrêmement différents, mais en fait tout le monde est tourné vers le même type d'objectif qui, à un moment ou à un autre, s'adresse aux populations locales dans cette problématique d'un projet qui a plusieurs dizaines d'années devant lui. Voilà, donc c'est important, je pense, de pouvoir donner à nos auditeurs une réflexion pluridisciplinaire du point de vue scientifique, mais également extrêmement ouverte grâce aux profils qui sont là parmi nous.
Alors Michel Brunet, vous qui avez plus de 50 ans de recherche en Afrique derrière vous, comment ont évolué les relations Nord-Sud dans le domaine des sciences? Un peu que force et faiblesse.
Oui, il faut voir les choses simplement. La recherche, c'est un domaine passionnant pour tout le monde. La recherche, c'est souvent du rêve, et du rêve qui devient réalité. Et j'ai pris l'habitude, quand je vais rencontrer les jeunes dans les collèges, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs, de leur dire « Vivez vos rêves ». C'est en vivant vos rêves que vous serez le plus heureux, que vous donnerez le meilleur de vous-même. Vivez vos rêves. Et soyez fiers de les vivre. Et vous pouvez le faire. La preuve, c'est que je l'ai fait. Mon rêve, c'était banal, dans le fond. C'était d'aller chercher, entre guillemets, des vieux os. Et il s'est révélé qu'après bien des années, Toumaï, le plus ancien représentant de notre famille a été mis au jour avec mon équipe au Nord Tchad, dans le désert du Djouram. Toumaï est un symbole. C'est un symbole d'union. C'est le plus ancien d'entre nous. Ça veut dire qu'on est tous africains. Tous. Et que, ici, en Europe ou ailleurs, eh bien, on est tous et toutes des filles, des fils de migrants. Ça veut dire aussi que quand on est arrivé en Europe, en passant probablement par le Moyen-Orient, on est arrivé, on avait une peau noire adaptée à des climats chauds. Et puis avec le froid, on a blanchi sous le harnais. Et on se plaisait bien en Afrique. Touma, il y a 7 millions d'années, et les plus anciens Européens sont connus à 1,9 million, c'est-à-dire un peu moins de 2 millions d'années. Vous vous rendez compte? Nous qui avons longtemps pensé qu'on n'avait pas d'histoire, on est un groupe singulier, les humains. Pendant la plus grande partie de notre histoire, on a pensé qu'on n'avait pas d'histoire. On était créationnistes. Et puis avec Darwin, on est devenu évolutionniste. Et avec Toumaï, on est rentré dans le temps long. On a une histoire qui s'inscrit dans le temps long. Et ce temps le plus long de notre histoire, on l'a passé en Afrique. On est vraiment tous africains. Toumaï est un symbole. Un symbole d'union. Nous sommes tous sœurs et frères. Frères et sœurs. Peut-on trouver un plus beau symbole d'union? Et il me semble que la Grande Muraille Verte, c'est quelque chose de merveilleux à mes yeux. C'est un projet scientifique qui est aussi un symbole d'union au niveau du Sahel. Et quoi de plus beau par les temps qui courent que travailler dans un programme de recherche, symbole d'union pour tout le Sahel. C'est merveilleux, non?
Mais est-ce que ce symbole d'union est suffisant pour faciliter quelque part la coopération scientifique, nouer des partenariats?
Suffisant, sûrement pas. Suffisant, ça voudrait dire qu'on a déjà tout fait et qu'il n'y a plus de projet. Il faut toujours avoir des projets. Je suis pratiquement sûr d'une chose, c'est que tant que vous avez des projets, vous restez jeune. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans tous ces projets, que ce soit la GMV ou que ce soit d'autres projets, il est important que la recherche, on fasse de la formation. Si vous me demandez de quoi je suis le plus fier, c'est simple, c'est d'avoir apporté la paléontologie à l'université de N'Djamena. Quand je suis arrivé au Tchad, il n'y avait pas de paléontologie à l'université de N'Djamena. Quand on m'a demandé qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez faire, on m'a dit « Oh, la paléontologie, ça, c'est un métier de riche. Nous, on est pauvres, on n'a pas de paléontologie. » On a formé ici, à Poitiers, dans mon labo, 4 docteurs en paléontologie, en sciences naturelles. On a formé une équipe. Et maintenant, il y a de la paléontologie au Tchad. Maintenant, il y a des fossiles au Tchad. Les fossiles ont été étudiés au Tchad. Certains sont venus à Poitiers parce qu'ils demandaient des technologies un peu sophistiquées. Puis, après étude, ils sont retournés. Bon, comment vous dire? On a fait une collaboration librement consentis de part et d'autre. Il n'y a pas eu de problème, c'était tout naturel, mais on était entre frères et sœurs, autour de la table, comme nous sommes là aujourd'hui. En réalité, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que la GMV m'a attiré. Parce que ce soit Toumaï ou la GMV, dans les temps que nous vivons, où il semblerait que tout devrait nous opposer, je trouve que la recherche, c'est quelque chose de merveilleux, où on peut très facilement montrer que beaucoup, beaucoup de choses nous réunissent et que tous ensemble, nous pouvons continuer à rêver.
Moi, je voudrais rebondir sur cette terminologie à laquelle j'adhère complètement, de librement consenti. Et je voudrais passer la parole à Pascal Duforestel, qui a pris en charge cette belle perspective qui est la coopération internationale pour une région, qui ne va pas de soi forcément, puisque ce n'est pas forcément des compétences initialement envisagées. C'est une histoire et c'est une volonté politique. Et ce mot de librement consenti, je voudrais, Pascal, que vous permettiez à nos auditeurs de voir comment un politique qui a pris ça à bras-le-corps de manière volontariste, l'envisage au-delà des projets concrets, etc., etc., pour mieux revenir sur le terrain.
Si le politique, c'est Alain Rousset, le président de la région, on ne peut pas dire que ça se voit sous les coups de boutoir de l'État ou de qui que ce soit qu'il a pris la décision. Et en l'occurrence, la puissance de notre politique de coopération, elle tient à la volonté politique, donc ce que vous venez de dire, et puis à la continuité de l'action. On a plusieurs coopérations donc, qui datent de plus de 20 ans. On a fêté Madagascar les 20 ans. Et c'est vrai que l'action qui peut paraître, quand on égrène le bilan annuel de nos actions de coopération, on reste modeste à l'échelle du besoin et des nécessités. Et notamment, puisqu'on a évoqué ensemble la question des catastrophes naturelles, on voit bien que nos petits moyens sont... vraiment petit à l'échelle des besoins. Néanmoins, quand on le regarde sur du temps plus long, on voit bien que ces actions, par exemple, les actions d'accompagnement des modèles agricoles dans la région Itache à Madagascar, les actions d'accompagnement dans l'ancienne région de Fatick au Sénégal auprès des éleveurs et plutôt des éleveuses de chèvres, portent leurs fruits sur du temps long. Je resterai modeste par rapport au discours universaliste de Michel Brunet qui vient de tenir à l'instant, mais j'ai un autre parallèle migratoire auquel je suis particulièrement attaché, c'est la migration de nos oiseaux qui font fi des questions de visa pour venir migrer dans nos parcs naturels et qui, par contre, doivent aussi faire face à la question du réchauffement climatique puisque les distances qu'ils doivent parcourir sont parfois plus longues que celles qu'elles étaient il y a encore 50 ans parce que leurs escales sont plus complexes parce qu'on a imperméabilisé plein de zones, parce que les zones humides sont mises à mal et parce que le reste de la biodiversité s'est dégradé depuis près d'un siècle maintenant. Voilà. Mais il est hors de question pour des politiques, et c'est le cas d'Alain Rousset, de s'en tenir à un discours catastrophique qui donne lieu à une résignation et où on se dit, bon, bah allez, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors, abandonnons l'international pour se concentrer sur les multiples désordres auxquels font face nos habitants. Comme le disait très bien Michel Brunet, on est dans un monde, dans une planète, on est unis face à son destin. Et donc, il est important, à côté des actions qu'on doit faire, dans des contextes budgétaires de plus en plus compliqués sur nos politiques de compétences pleines, d'arriver à continuer cette action et à entraîner d'autres acteurs infra, comme on dit chez nous, c'est-à-dire des communes, des intercos, des départements, etc. Puis entraîner les autres régions françaises pour continuer ses actions et œuvrer à une coopération et si possible de se concentrer sur des enjeux qui servent la planète et qui ne servent pas uniquement notre bonne conscience.
Donc si j'ai bien compris, la modestie ponctuelle en s'inscrivant dans le temps long permet d'avoir une lisibilité sur les actions dès l'instant où politiquement on s'y tient et on veut tenir les choses sur un temps long par rapport aux 7 millions de Toumaï, tout étant relatif. Alors, je retiens de cette affirmation forte d'une politique régionale qui est originale et inscrite dans le temps, parce qu'en fait, la fusion des trois régions a permis de se rendre compte que, historiquement, les trois régions avaient déjà beaucoup de choses depuis longtemps. Je pense que ça, c'est... Donc, la terminologie employée a été un moment face aux contraintes budgétaires. Essayons de voir avec d'autres acteurs qui permettent de démultiplier. Alors, on a la chance d'avoir Paul Minot à notre table, qui est vraiment membre, partie prenante de la communauté de la Grande Muraille Verte, avec son projet original récemment sorti, donc autour du concept Filtra Life. Donc Paul, merci de rappeler très rapidement Filtra Life, bien sûr, et puis les perspectives, mais surtout avec la trajectoire internationale africaine que vous avez pu avoir, voir comment vous inscrivez dans l'avenir, et y compris par rapport à des orientations telles que Pascal Duforestel vient de nous les donner. Alors vous n'êtes pas ce matin l'avocat des entreprises, vous êtes un entrepreneur, mais vous avez quand même une conscience de ce que le monde de l'entreprise peut faire ou dont elle a besoin.
Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, effectivement, Filtra Life a été conçu, c'est un projet qui a été établi il y a à peu près 2 ans. Il y a eu 1 an de développement. Et on est parti du principe de prendre toutes les autres surfaces, sauf l'eau de mer, et de les transformer en eau potable. Sans produits chimiques et sans énergie. En traitant 1000 litres d'eau à l'heure. On s'est basé sur les 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, et on a réfléchi à ce projet-là. Ce projet-là a été développé, entre autres, aussi avec mon fils, Auguste, donc Auguste Minot, qui, lui, s'occupe de toute la commercialisation dans le monde. Cette année, nous avons pu aussi avoir la médaille d'or au concours Lépine, ce qui nous a aussi propulsés. Et nous sommes en phase aujourd'hui de production. C'est-à-dire que nous sommes en train de livrer en Afrique des machines Filtra Life. Et ces machines vont sauver des populations dans des villages, etc. Le gros enjeu pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est de faire connaître notre produit. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui ne connaissent pas, et des millions de personnes qui ne connaissent pas Filtra Life. Et pourtant, on a une solution immédiate pour eux, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, sur des zones de conflit, etc., etc. Donc on est en train de travailler ardument sur ça. Alors, Filtra Life, sur la Grande Muraille Verte, ça a tout son sens. La Grande Muraille Verte crée un écosystème. Cet écosystème va amener une population. Cette population va tourner autour de cet écosystème, donc il va y avoir besoin d'eau potable, tout simplement. Parce qu'il y aura des... Par exemple, mon collègue a parlé des chèvres et des agriculteurs sur l'Afrique. Eh bien, ils ont besoin d'eau, ça va créer de la richesse, etc. Donc, voilà. Voilà Filtra Life, à quoi ça sert.
Peut-être un complément, parce que là vous êtes modeste, mais vous avez une expérience africaine qui vous permet aussi d'avoir conçu un produit. Alors le produit Filtra Life, en fait, c'est un processus qui me paraît intéressant pour d'autres types de production, parce que vous avez conçu quelque chose qui est adapté au terrain. Contrairement à ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années où les choses arrivaient d'en haut, oui, sans avoir de connaissance des us, des coutumes, des usages, etc. etc.
Oui,
peut-être en dire
oui,
un mot.
Effectivement, j'ai omis de cette explication. Alors, j'ai 30 ans d'Afrique derrière moi. Je suis à la tête d'un petit groupe où on exporte à peu près dans 50 à 70 pays dans le monde, mais avec une très grande connaissance de l'Afrique. J'ai pratiquement fait tous les pays d'Afrique. Et quand j'ai conçu cette machine, j'ai conçu cette machine en prenant en compte les problématiques africaines. C'est-à-dire que si on vendait et on apportait un produit, il ne fallait pas qu'il tombe en panne. Il ne fallait pas qu'il y ait du récurrent en consommable. Quand elle est exposée, cette machine est naturellement pas financée par l'utilisateur qui vit avec 50 centimes, 1 euro par jour, voire même moins. Donc, c'est l'acheteur, en fait. Et une fois que l'acheteur a placé cette machine dans un environnement en Afrique, bah, il s'en occupe plus. Donc ça a été pris en compte dès le départ, pour que ces machines-là ont une durée minimum de 15 à 20 ans, sans qu'il y ait de consommable. Et c'est ça notre magie, en fait. Et ça fonctionne, et on a hâte encore d'en commercialiser encore plus. Là, actuellement, on est en train d'en envoyer en Côte d'Ivoire, entre autres, etc., etc.
Alors, merci de ce témoignage. On va y revenir, puis je voudrais aussi revenir sur l'environnement favorable ou favorisant les projets. Peut-être revenir l'expérience africaine de Michel pour la recherche, la formation. Puis Pascal, peut-être nous redire dans quel contexte on peut garantir les coopérations. Alors Gora Diop, notre ami sénégalais en charge de la Grande Muraille Verte sur le Sénégal, avec du recul, cette relation avec le monde de la recherche européen dans un premier temps, et puis petit à petit une montée en puissance avec de jeunes chercheurs sénégalais. Comment est-ce que vous l'avez vécu, et comment vous analysez les perspectives, ce qui est en train de s'ouvrir justement par rapport à des projets qui sont en train de naître, Filtre Life en faisant partie?
Merci beaucoup, Yves, pour cette question qui me permet d'abord de revenir sur le contexte de l'initiative de la Grande Muraille Verte, qui est née d'un constat, parce que le Sahel est caractérisé par son aridité. Le Sahel est constitué dans certaines zones par des activités sylvopastorales qui nécessitent donc des ressources potentielles, naturelles, et qui manquent par hasard. Et je crois bien que ce qui a fait naître l'idée de la Grande Muraille Verte. Mais si cette idée est née aujourd'hui, c'est appuyé sur des constats et des résultats de recherche. Et le mal, peut-être, dans nos pays en développement, la part, n'est-ce pas, où le budget qui est dédié à la recherche est en très minime par rapport aux priorités et aux besoins de recherche. Et c'est ce qui sous-entend quelque part la nécessité de cette coopération tant parlée. Et dont le Sénégal aussi a une tradition. Je le disais hier que le Sénégal connaît déjà 52 ans de décentralisation, parce que l'acte 1 de la décentralisation date de 1972. Ce qui fait aujourd'hui, on peut constater et voir une coopération décentralisée forte, dont a parlé tout de suite le représentant du Conseil régional en prenant le cas de Fatick, la coopération bilatérale, mais aussi la coopération multilatérale. La recherche, certes mieux développée dans les pays du Nord, s'intéresse aussi aux réalités des pays du Sud, parce que la nature elle-même n'est pas cloisonnée, comme l'a dit tantôt le représentant du Conseil régional en parlant des oiseaux migratoires qui n'ont pas besoin de visa, mais dont le circuit est bien connu et défini. Et on sait les périodes qu'ils quittent et les périodes qu'ils reviennent. Peut-être, comme la nature ne connaît pas de frontières administratives, on n'a pas pu les mettre des frontières administratives. Un feu de brousse qui se déclare en France peut bien brûler une partie de l'Espagne, et vice-versa. Ce qui sous-entend aujourd'hui l'importance de la recherche qui est centrale. Même si aujourd'hui il y a des avancées au niveau des pays du Nord, je crois bien que les pays du Sud ne doivent pas être exclus ou oubliés. Cela dit, mais comme on a l'habitude aussi de le dire, tout ce qui est fait derrière toi est fait contre toi.
Est-ce que les pays du Sud ne doivent pas être associés dès le début, n'est-ce pas, de la réflexion ou de l'écriture même des protocoles de recherche? Parce que je crois bien que l'Afrique ou les pays du Sud ne doivent pas être uniquement des laboratoires de recherche, mais doivent être, n'est-ce pas, au cœur du dispositif de recherche en fonction des priorités. Et c'est ce qui dit que j'ai bien aimé les propos de M. Minot, qui dit qu'il est parti de son expérience de terrain. J'avais horreur d'entendre au début des années 90-80 le transfert de technologie. Une technologie ne se transfère pas. Une technologie s'approprie. Tu me transfères une technologie dont je ne connais même pas les aboutissements. Et ce qui se passe sur le terrain. À maintes reprises, nous avons vu des innovations extraordinaires, n'est-ce pas? Mais qui ne sont pas contextualisées en Afrique et qui ont été transférées. Et quel est le problème? Le problème de pièces de rechange, le problème de services après-vente, un investissement lourd qui ne va durer qu'un an, deux ans et après c'est dans les poubelles. La recherche, comme je le dis toujours, doit être orientée vers le développement. Et je disais à un de mes professeurs qui me parle de développement durable au début, et je disais, est-ce que ce n'est pas du pléonasme, le fait qu'on ajoute la durabilité, n'est-ce pas? Parce qu'un développement n'est pas éphémère, n'est-ce pas? C'est pas, même si ça peut évoluer en dents de scie, mais la constance ou l'accroissement, n'est-ce pas, du potentiel doit être de mise. Et je crois bien qu'aujourd'hui, il faut saluer ce qui se passe à Poitiers. Je le disais hier, parce que je vois, c'est depuis 2021, je suis constamment à Poitiers. Beaucoup d'efforts ont été faits ici, mais qui nécessitent à être partagés et diffusés partout.
Le nouveau projet de parcelle expérimentale va-t-il amener de nouvelles coopérations? Un peu, quels sont les partenariats envisagés pour parler de ce nouveau projet?
Il y a un partenariat déjà naturel sur place. Parce que la grande mervette, c'est dans les territoires d'abord. Les territoires ne sont pas vides. Il y a plusieurs acteurs déjà en interne qui nécessitent, je crois bien, un développement partenarial important. Et qui est le soubassement aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de dire la grande mer verte pour les communautés et avec les communautés. Et je crois bien que les communautés doivent être au cœur de ce dispositif. Donc ce partenariat est d'abord local. Mais je disais hier que tout système est lié à son environnement de telle sorte que l'un n'existe pas sans l'autre. Aujourd'hui, au-delà de ceux qui sont à ce milieu-là, au-delà, il y a cet environnement qui s'intéresse à ce que fait le système. Et la recherche, depuis le début de la grande mer verte, en 2008, nous éclaire et nous aide à aller très, très, très vite. Et je disais par là, un partenariat se définit comme étant une convention de gagnant-gagnant. C'est ça la définition étymologique. Si quelqu'un se défend ou se voit victime d'un partenariat, ce n'est plus un partenariat. Un partenariat, c'est des engagements entre parties. Quel est le degré d'engagement de Didier à mon égard? Quel est mon engagement envers Didier? Et quels sont nos engagements communs? Et je crois bien que c'est comme ça qu'est définie toute convention ou tout partenariat. Et je crois bien que ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la recherche, parce qu'il y a beaucoup de communications que nous entendons, mais qui ne sont pas fictives et virtuelles, même si sont français ou sont européens quelque part, ils te décrivent Udu, ils te décrivent Tesekere, ils te décrivent Koli Alpha, et tu as l'impression que c'est des gens, n'est-ce pas, qui ont fait une immersion dans cette zone et qui ont pris, comment dirais-je, de l'avance par rapport même à certains Sénégalais de Dakar ou de Thiès ou de Saint-Louis. Et je crois bien que c'est ce qu'il faut saluer dans cette coopération et qui permet de booster ce que nous sommes en train de faire. Mais une question peut-être qui sera lancée comme ça, quel serait le coût ou le prix à payer, n'est-ce pas, pour que les résultats de ces recherches-là aboutissent au niveau, comment dirais-je, des communautés, mais pas en termes de tests ou de laboratoire, mais en termes de vécu quotidien qui va faire de la granularité une réalité.
Merci pour cette, grâce à l'entrée de Paul Minot, pour cette, ce rappel à la présence des communautés. Moi, Michel, j'aimerais revenir justement sur l'expérience de la création d'une école de paléontologie au Tchad, puisque à l'instant, Gora rappelait que les pays du Nord avaient historiquement une avance, mais comment est-ce qu'on arrive à des notions de partenariat équilibré en permettant aux pays africains de monter en compétences, en puissance? La recherche, c'est des outils, mais la recherche, c'est aussi une méthodologie, des réflexions. Et est-ce que, à travers le message qui est donné sur Toumaï et la Grande Muraille Verte, par exemple, on montre pas que la recherche mérite un dialogue qui est peut-être plus important que celui qui est restreint à des outils technologiques, à des transferts de technologies, comme on le rappelait à l'instant. Donc aller au-delà de choses qui sont factuelles.
Je crois, Gorin, que tu as parfaitement exprimé ce qu'est un partenariat, un vrai partenariat. Je dis souvent une vraie collaboration. Formation par la recherche et pour la recherche. Sur des programmes établis en commun, ou par une partie, mais un vrai partenariat. Les anglophones diraient un gentleman agreement. C'est ça, un partenariat. Au-delà des projets, les projets peuvent être symboliques. Là, nous parlons des hommes, des femmes, et le partenariat, c'est là qu'il se passe. Entre nous, il faut bien évidemment, pour que ce soit durable dans le temps, il faut, comme tu l'as très bien dit, que ce soit parfaitement équilibré. Sinon, ce n'est plus un partenariat, c'est autre chose. Quelque part, pardon, je vais redire ce que je disais tout à l'heure, ce dont je suis le plus heureux dans ce que j'ai fait, c'est pas d'avoir trouvé des fossiles ou des... Non, c'est quelque part d'avoir participé aux fondations d'une école de paléontologie au Tchad. Parce que ça, c'est tangible. Ça existe. Ça n'existait pas. Alors, c'est résumé dans ce que l'on dit, formation par et pour la recherche. Bien évidemment, même en paléontologie, recherche et développement, c'est important. C'est important. Tout le temps, pour nous tous. Alors maintenant, quand on parle des moyens alloués à la recherche, il faut surtout pas croire que ces moyens sont illimités. Ils sont toujours trop limités. Et souvent, de plus en plus. C'est un vrai problème. Un vrai problème. Et je pense que là, on a un domaine commun entre le Nord et le Sud. Un bon nombre de nos pays sont, à l'échelle mondiale, des pays de taille réduite, dans un environnement, dans la mondialisation de nos activités. Des places sont déjà occupées. On ne va pas, quand on est dans les situations que je viens d'indiquer, il faut être innovant. Seule l'innovation vous l'avez montré, est importante. L'imitation, il y a déjà un certain nombre de pays qui ont de l'avance sur nous tous. Et pour être innovant, pour faire de l'innovation, il faut une recherche forte. Il est important. La région Nouvelle-Aquitaine le montre parfaitement en aidant, dans la limite de ses possibilités, en aidant de manière forte la recherche. C'est important, très important. Il faut être innovant, il faut faire de l'innovation, il faut former des jeunes, c'est important, très important. Dans nos domaines respectifs, il faut associer des jeunes, beaucoup de jeunes. C'est l'avenir. Pour récolter, il faut planter. Dans le domaine de la recherche, il faut former des thésards, il faut avoir des thésards. Il faut transmettre. Je crois que c'est ça le plus important. Dans le cadre d'un gentleman agreement. Ça me paraît important et vous l'avez très bien dit. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit.
Justement, je voudrais revenir là-dessus, Pascal, du point de vue de la manière dont une région comme Nouvelle-Aquitaine envisage les choses. Ce que Gora Diop a dit tout à l'heure, en expliquant qu'une coopération légitime, avant même que la coopération soit décrite, il faut pouvoir discuter avec celles et ceux qui sont sur le terrain, l'objet même de cette coopération. Est-ce que c'est une évolution dans les méthodes ou dans les façons de monter des projets par rapport à ce qui a pu se faire avec plein de bonnes intentions depuis une trentaine d'années, où effectivement les programmes étaient pensés, on va dire, rapidement en France. Ensuite, ils arrivaient sur le terrain. Et tant bien que mal, ça passait ou ça ne passait pas. Mais on voit bien qu'il y a plein de choses qui ont été tentées, des choses en plus pleines, encore une fois, de bonnes intentions, et qui n'ont, la greffe n'a pas prise, en fait, pour reprendre la métaphore environnementale.
Oui, c'est peut-être aussi parce qu'on a eu quelques réflexes post-colonialistes. Donc autant se le dire entre nous. Mais en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ou c'est court-termiste. Donc... Le propre des coopérations que nous conduisons, c'est déjà de zapper la relation avec les gouvernements, d'une part parce qu'ils changent beaucoup, parce qu'ils sont parfois corrompus, et donc sans mettre à mal la diplomatie de notre pays, mais la relation, elle est directement avec les régions avec lesquelles on est en coopé. Et elle est menée, il ne s'agit pas d'envoyer des sommes d'argent ou de matériel et de les larguer comme ça au hasard de leur destinée, mais bien de mener des actions sur place avec les populations, avec les structures organisées dans les différents pays et d'échanger. C'est-à-dire que moi j'adore... en parler avec les chevriers, les éleveurs de chèvres, donc de la filière caprine de l'ancien Poitou-Charentes, puisque c'est eux qui ont commencé à mener ces actions au Sénégal, et qui me disent tout le temps qu'ils ont au moins autant appris que les femmes sénégalaises. C'est que certes, on a apporté de la méthode, des process vétérinaires, des modes d'élevage, de la diversification pour, à partir de ce même lait de chèvre, faire des savons, faire des fromages, etc. Très, très bien. Mais ils ont aussi appris plein de choses de la vie, en général, du fait de cette relation. Et ensuite, à nous de faire en sorte que les gouvernements locaux... de l'ancienne région de Fatick, en l'occurrence des départements de l'entente interdépartementale, et que préfet et que le gouvernement accompagne le processus par la suite. Mais ça serait une erreur que de penser qu'on va passer directement avec le ministère de l'Agriculture pour mener cette action. Et c'est vrai, de l'ensemble des actions, elles ne tiennent que parce qu'on a des équipes sur place, on a des partenaires sur place, on a des ONG sur place qui sont ancrées dans la réalité locale, qui sont en plus Cité Initiative et Développement ce matin. C'est typiquement le mode d'accompagnement soucieux de cette itération permanente qui fait qu'on s'adapte, on réfléchit, on co-construit avec les partenaires locaux.
Merci à nos intervenants pour leur éclairage respectif. Merci amis auditeurs et auditrices pour votre écoute. Ce podcast est maintenant terminé. Retrouvez toute l'actualité de l'Institut Balanites sur le site institutbalanites.org.